Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1. Bienvenue dans l'équipe est sauvage, 2 heures éclectiques pour gainer vos zygomatiques sans ramollir vos cervelles, portées aujourd'hui par la ferveur d'un public de guerriers. Ouais, guerriers, car pour réussir à arriver jusqu'ici en métro aujourd'hui avec la grève de la RATP, faut pas se leurrer, ceux qui sont présents dans ce studio sont ceux qui ont piétiné les autres dans les couloirs de la 10. Bravo mes champions! L'équipe est sauvage, vous le savez, c'est l'émission qui est venue remettre un peu d'ordre dans la rédaction d'Europe 1, obligeant les journalistes à se dépasser, sachant qu'ils sont désormais en compétition. Un seul sera élu chroniqueur du jour à l'issue de cette émission, et surtout, vu que c'est notre dernière émission avant les vacances, nous saurons tout à l'heure qui va être sacré champion d'automne. Alors on sait déjà, ça ne sera pas elle, puisque suite à une magouille que je n'ai jamais comprise, elle est hors compétition, comme les films moyens à Cannes. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est vous qui m'avez mis hors compétition, tout seul comme un grand.
C'est vrai, à un moment d'égarement. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde.
Parce que je vous supporte à longueur de journée.
Oui, vous nous direz ce qu'on regarde sur les écrans ce soir, Eva.
Oui.
Si vous en avez envie.
Bien sûr.
Accueillons d'abord chaleureusement notre invité d'honneur, celui dont la voix comptera triple en fin d'émission. Un comédien qui sera à l'affiche mercredi 1er janvier d'un film intitulé Les Vétos. Et j'ai envie de dire, il était temps, c'est vrai, des vétos au cinéma, on n'en voit pas. Ou alors quand on en voit, c'est malgré eux.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un copain? On l'appelait copain comme cochon.
Mais pourquoi vous êtes venu ici? Je ne suis pas vétérinaire, essayez de comprendre ça, monsieur Guilin.
Docteur. Il fait de l'anémie, il ne mange pas.
Mais bouffez-le, moi j'ai pas l'impression de vous dire, mais bouffez-le. Bouffez-le.
Enfin, le vétérinaire devient un héros à part entière de cinéma. Clovis Cornillac est notre invité aujourd'hui. Bonjour Clovis.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous incarnez donc un veto, Nico, dans le premier film de Julie Manoukian qui sort le 1er janvier. Un rôle qui vous a tout de suite emballé. J'ai lu les interviews, ça vous a tout de suite plu.
Plus que le rôle, c'est le projet qui m'a emballé. Oui, oui, l'idée de, vous le disiez à l'instant, l'idée de faire un film sur le monde vétérinaire, j'étais halluciné de me dire qu'on n'avait pas fait un film sur un sujet pareil. Tous les gamins rêvent un jour ou l'autre d'être vétérinaire. Enfin, le sujet était sous notre nez, personne ne l'avait fait. Et alors, en milieu rural, c'était d'autant plus intéressant et plein de choses à découvrir. Donc, très chouette.
Alors, on va parler de ce film. Mais d'abord, mon cher Clovis, je vous présente les forces en présence aujourd'hui. Et c'est un grand jour, puisque, comme je le disais à l'issue de cette émission, nous allons connaître le champion d'automne de l'équipée sauvage. Alors, à ma droite, actuellement deuxième du classement général, les enregistrements pirates sur lesquels on l'entend dézinguer tous ses collègues donnent raison à Nietzsche qui disait...
Vous savez... Un grand conquérant est un homme seul.
À moins que ce soit Villeray dans Papy fait la résistance. Toujours est-il qu'en conspuant ses collègues, considérés, je cite, comme une belle brochette de feignasse, Ève Roger est certes au sommet, mais seule. Bonjour Ève.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous avez aujourd'hui l'opportunité incroyable de virer en tête à la mi-saison. Oui. Comment comptez-vous vous y prendre?
Alors j'ai décidé de m'attaquer aujourd'hui à un sujet tabou, c'est les cadeaux pourris de Noël, ce qu'on reçoit. Pire cadeau de Noël, alors ça peut être un pull sans forme, des stylos Bic ou même un aspirateur de table. J'ai lu ce matin une de nos auditrices.
Exact.
Alors pourquoi on les fait? Comment les recevoir? Je vais tout vous expliquer.
Moi je serais super content d'avoir un aspirateur de table, c'est vachement pratique. Pourquoi c'est nul?
C'est l'auditrice, je crois qu'elle s'appelle Marie, qui ce matin elle dit moi non, j'ai eu un... Alors c'est peut-être parce que c'était par son ex.
Oui voilà, c'est son ex.
Ah oui, forcément si ça vient de l'ex, c'est autre chose. Face à vous, ces chances de virer en tête du classement à la mi-saison sont, avouons-le d'emblée, assez minces. Car Eve, quel est le principal défaut de Mathieu Charrier?
Il est égoïste.
Oui, mais surtout il est 9e. Alors comme à la loyale il n'a aucune chance, il fomente avec d'autres journalistes en difficulté un scénario qui lui permettrait de voler la victoire à Ève Roger.
On la débusque, on la passe à l'acide, on la dissout et on balance ce qui reste dans le lac d'Aumenil.
Bonjour Mathieu Charrier.
Je suis 8e.
Il est d'une mesquinerie affligeante. Avec
Bonjour.
Quel sujet brillant Mathieu allez-vous enfin entamer votre remontada?
Star Wars, vous savez, parce qu'en ce moment on en parle beaucoup, c'est sorti mercredi dernier, on nous dit partout que c'est la fin de Star Wars, c'est la fin de la grande saga.
Ah ça, je n'arrive pas à le comprendre. Disney vient de racheter les droits de Star Wars.
Justement,
ils vont pas s'arrêter là.
Ben voilà, vous avez tout compris, c'est ce que je vais vous expliquer. Le plan de Disney pour gagner un maximum d'argent sur Star Wars.
Allez. Merci Mathieu Charrier, voici pour le programme l'équipe est sauvage, c'est parti.
L'équipe est sauvage.
C'est donc Clovis Cornillac qui nous accompagne cet après-midi. Clovis, vous démarrez parfaitement l'année puisque vous serez à l'affiche le 1er janvier d'un film familial qui est une véritable bouffée d'oxygène, je vous le dis. Ça s'appelle Les Vétos. Alors, je commence à raconter l'histoire et je vous laisse finir. Vous incarnez Nico, un vétérinaire de campagne en plein cœur du Morvan. Vous êtes associé à Michel, votre mentor, qui vous annonce qu'il part un jour à la retraite, quasiment sur le champ. Il vous dit « T'inquiète pas, j'ai trouvé quelqu'un ». Alors, effectivement, il a trouvé quelqu'un, mais de consentant, ça, c'est moins sûr.
Absolument. Et en fait, il fait un traquenard. Enfin, il place et son associé, donc le personnage de Nicolas que j'interprète, et une jeune femme, jouée par Naomi Schmidt, qui s'appelle Alexandra, qui est une brillante étudiante qui finit ses études de vétérinaire, qui elle voilà, projette plutôt un avenir comme laborantine pour travailler sur les pandémies et des choses comme ça. Et il l'a fait venir en disant qu'il a un problème de santé au fin fond du Morvan. Et elle va se retrouver, alors qu'elle a du mal à avoir de l'empathie pour les gens, qu'elle a du mal, qu'elle a aucune envie d'être vétérinaire de terrain, elle va se retrouver à découvrir en fait qui elle est à travers cet été-là où elle va filer la main et apprendre et le métier de vétérinaire de terrain et apprendre à être quelqu'un qui trouve du sens à son existence. Donc c'est assez joli. Ouais.
Et alors dans ce film, on parle souvent de la difficulté d'être médecin en zone rurale. On découvre la difficulté d'être vétérinaire en zone rurale. Les Absolument. Kilomètres à parcourir, la fatigue et surtout le fait qu'on gagne très peu d'argent. Il y a des gens, quand vous allez vous rencontrer des paysans pour soigner leurs bêtes, c'est quand même leur outil de travail, vous avez du mal à les faire payer, sachant que leur conditions de vie
et
leur...
Et je trouve que c'est un des tours de force vraiment réussis de la part de Julie Manoukian, la réalisatrice, qui a fait un film qui édulcore en rien la réalité. C'est-à-dire, tous les vétérinaires, on a présenté le film, nous, à travers la France, tous les vétérinaires disent « Ah, c'est exactement c'est ça. » Et puis, en même temps, c'est un film lumineux qui montre l'espèce de point commun qu'on pourrait avoir tous avec les vétérinaires quand on a choisi nos métiers, c'est la passion. C'est-à-dire que c'est des gens extrêmement passionnés par ce qu'ils font, qui ont de l'humour aussi. C'est comme chez les médecins humains. C'est des gens qui déconnent beaucoup. Donc il y a tous ces aspects-là ne sont pas mis de côté, ce qui fait que le film garde une fraîcheur et c'est très doux. Les gens s'approprient le film très facilement.
Contrairement à Christian Clavier dans Les Bronzés, lui, il fait les bêtes. Clovis Cornillac est avec nous jusqu'à 18h. À suivre, c'est notre hantise à tous à quelques jours de Noël, se tromper de cadeau. Ce moment terrible où alors qu'il finit de le déballer, on lit dans le regard de l'autre l'incompréhension, voire la déception devant notre cadeau. Eva avait vécu ça sous le sapin avec Harry Habitant Noël dernier.
Mais qu'est-ce que ça peut être un sextoy caché, Eva ?
À l'avenir, évitez de décevoir vos proches, écoutez les conseils d'Eve Roger.
Europe 1, 16h-18h,
L'équipe est sauvage sur Europe 1,
16h-18h,
Mathieu Noël.
Quatre journalistes, une couronne et un public en folie. Vous écoutez l'équipe est sauvage du vendredi avec Clovis Cornillac qui sera à l'affiche le 1er janvier du premier film de Julie Manoukian, Les Vétos. On continue d'en parler, mais vous le savez, Clovis, la compétition n'attend pas et elle encore moins. En effet, le terme de diva n'est pas excessif pour qualifier Eve Roger, chef du service société. Le genre de femme qu'on ne serait pas étonné de croiser un martinet à la main en tenue de Catwoman dans les sous-sols d'un club sadomaso berlinois, si vous voyez ce que je veux dire. Eve, qui la semaine dernière, dans un enregistrement que j'ai porté à la connaissance du public, a éparpillé façon puzzle les trois quarts de ses collègues, ramassis d'assister à la limite de l'incompétence. Elle a d'ailleurs fini par l'avouer.
C'est vrai que je suis un peu bitcheuse.
Non, vous êtes un peu bitcheuse. Aujourd'hui, Eve, c'est d'ailleurs conforme à votre nature, vous prenez un malin plaisir à nous expliquer pourquoi on est si nombreux à se planter au moment de choisir un cadeau pour un proche à Noël.
Oui, on commence par un chiffre. Un Français sur deux reconnaît avoir reçu un cadeau qui ne lui plaisait pas. Ça fait, écoutez bien, 300 millions d'euros dépensés pour rien à chaque Noël. 300 millions d'euros. Et 22%, c'est-à-dire à peu près un quart, ne rechignent pas à le remettre en vente dans la nuit du 24 au 25 décembre.
Vous l'avez déjà fait autour de la table ? Quelqu'un a déjà revendu son cadeau sur eBay ?
Moi, je ne sais pas faire.
Clovis, oui, visiblement.
Ah non, alors pas.
Vous n'avez jamais revendu.
Non, mais ça ne me viendrait même pas à l'idée.
C'est vrai ?
Oui, mais ce n'est pas ma nature.
C'est l'intention qui compte.
Ben, je suis c'est vraiment c'est sincère. Hein. C'est-à-dire, tu m'offres un carambar, une gaufre dans un papier cadeau, je trouve ça super gentil. Donc, j'ai un truc, ça me fait plaisir. Après, je te dis pas que je vais l'utiliser, mais en vrai, ça me fait. C'est vraiment, je trouve ça très chouette un cadeau.
C'est un mec bien.
Mais donc, déjà, je peux vous dire sur Internet, la prochaine nuit, il va y avoir le dernier disque de Johnny Hallyday, vous savez, symphonique, 2, le Goncourt de Jean-Paul Dubois, et 3, le jeu FIFA du foot. En général, c'est quand même le trio tête, puisqu'on le reçoit aussi plusieurs fois. Donc on a tous notre pire cadeau de Noël. Moi, je vais avouer le mien. Plusieurs fois, on m'a offert, je ne sais pas pourquoi, la cuisine pour les nuls.
Alors moi, je sais pourquoi, si je puis me permettre. Parce que pour avoir eu la chance de dîner 2-3 fois chez Roger, heureusement qu'il y a son mari.
Donc, je vais vous faire écouter un petit florilège des pires cadeaux de Noël pour d'abord Élodie, puis Claire, écoutez.
Ma tante, qui d'habitude a bon goût, qui m'offre des bijoux sympas, et ben là, elle m'a offert un torchon. Franchement, pas terrible. Et le pire avec ce torchon, c'est qu'il était hydrophobe en fait. Il essuie hyper mal la vaisselle. Donc le truc est moche et en plus il sert à rien.
Une fois j'ai reçu du scotch et le pire c'est qu'il était même pas neuf. Quand j'ai déballé, en plus c'était même pas dans un carton, c'était genre quelque chose qu'on a pris du bureau pour l'emballer et me le donner.
Voilà. Mais c'est une blague.
On envoie un message.
Il était même pas. Alors c'était la sœur de la belle-mère.
Ah bah, donc, ça, voilà. Pire que la belle-mère, la sœur de la belle-mère. Ça c'est affreux.
Voilà, donc c'est le pire que ce cadeau-là, on l'oublie jamais.
Mais pourquoi on est souvent déçu par les cadeaux qu'on nous offre ?
Alors déjà, c'est parce qu'il y a beaucoup d'attentes. On met beaucoup d'espoir dans ce cadeau et la déception était à la hauteur de l'attente qu'on y met. Alors il y a plusieurs cas de figure. D'abord, le cadeau qui a été choisi un peu par-dessus la jambe, celui-là, on le reconnaît tout de suite. Acheté à la dernière minute dans la dernière boutique ouverte ou même ramené de chez soi du placard, ça arrive. Oh donc c'est le scotch de Louise.
C'est ignoble.
Et puis le pire, ce sont les cadeaux qui tombent à côté de leur cible, alors que celui ou celle qui nous l'offre, c'est précisément celui qui est censé nous aimer le plus, nous faire plaisir. C'est le torchon d'Élodie. Elle dit sa tante d'habitude, elle sait faire. Et si ça fait mal, c'est parce que pour nous, le cadeau est à l'image des sentiments qu'on nous porte. Ben donc, oui. Si le cadeau est raté, c'est que les sentiments ne sont pas si importants que ça. Et quelqu'un qui nous aime ne peut pas se tromper. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Alors que si, bien évidemment, on n'est pas dans la tête de l'autre. Même vos parents, votre amoureuse, votre amoureux ne peut pas être à votre place. Donc, ne peut pas évidemment tout savoir. Donc, il faut avoir un peu de philosophie. Et l'important, disent les psys, vous l'avez dit déjà, même sans le savoir, c'est l'intention qui compte.
Choisissez bien le mien quand même, hein. Faites pas par-dessus la jambe.
Là, il vient de se rendre compte qu'il l'a toujours pas fait.
Oui, c'est exactement ce que c'est exactement la pensée qui vient de me traverser.
Ou qu'il n'avait pas prévu d'en faire.
Pire, et je n'ai pas osé aller aussi. Je pensais filer discrètement en vacances et ne pas vous croiser avant tard en janvier. Mais alors, nous-mêmes, on se trompe souvent. Pourquoi ?
Ben oui, parce que vous avez raison, vous-même, surtout vous.
Surtout moi ?
Non, surtout vous, les hommes.
Pourquoi nous, les hommes ?
Alors, vous allez
on n'est pas bon pour les cadeaux.
Vous allez comprendre, c'est la psychologue Jeanne Siofachin qui nous l'explique.
Souvent, les hommes, ils ont cette espèce de sensation que de toute façon, ils ne sauront pas faire, que de toute façon, ça ne va pas aller. La peur de décevoir les conduit exactement à faire ce que les femmes détestent, c'est-à-dire de le faire un peu à la va-vite et un peu n'importe comment.
À la va-vite et n'importe comment, parce que vous avez peur de décevoir.
Pff, c'est pas du tout ce que je fais.
Mais non,
je
moi
passe
non plus,
beaucoup
pas
de temps.
Non, mais toi, t'es pas tout à fait un homme, Mathieu.
Mais ne vous... Elle est
bon,
terrible,
en tout cas,
là.
On conclura. Surtout pas de panique. Et puis, n'oubliez pas, donc, c'est l'intention qui compte. Et j'avais d'ailleurs une question pour vous, Mathieu. Ça vous a plu, le shampoing à barbe que vous a offert Eva hier ?
Oh, je l'ai oublié. Mais non, je l'ai ramené à la maison. Mais dès ce week-end, je vais l'essayer. Clovis Cornillac, votre pire cadeau de Noël, est-ce que vous vous en souvenez ? Vous qui les aimez tous ?
Non, je ne sais pas. Voilà.
Vous avez des bons amis, probablement.
Probablement, déjà, je suis gâté. Et d'autre part, comme je vous disais, comme je suis content de temps en temps, c'est quelques jours après où ben justement ta douce, elle te dit « Mais tu vas pas mettre ça ?» tu fais « Bon, il est joli, ce collier. » Tu fais « Mais un collier, Clovis, ça va pas. »
Merci en tout cas, Ève Roger. Mathieu Charrier, au regard de la prestation de votre rival, comment voyez-vous la suite ?
L'aigle va fondre sur la vieille buse.
Oh, je vous en prie, elle n'est pas une buse, Mathieu. Oh, quel goujat. Clovis Cornillac et notre équipier sauvage cet après-midi. Ensemble, on continue d'évoquer Les Vétos, ce film dans lequel il incarne un vétérinaire au bord de la crise de nerfs. Une thématique qu'adore Mathieu Charrier, le monsieur cinéma d'Europe 1, qui, déjà qu'il travaille beaucoup en temps normal, travaille encore plus lorsqu'il chronique un film sur les animaux.
On va parler d'acteurs un petit peu particuliers, les animaux sur les tournages, puisqu'il y a beaucoup d'oies sauvages sur le film de Nicolas Vanier. Voilà, comment tout ça est encadré, comment ça fonctionne.
Vous avez des extraits sonores ?
Non.
Aujourd'hui, Mathieu va nous parler de Disney confronté au problème de l'essoufflement de la saga Star Wars. Je n'ose pas vous poser la question, vous avez des extraits sonores,
j'allais
Mathieu.
Je vais pas vous mettre des bruits d'oies ou des bruits de cochons.
Mais là, aujourd'hui,
intérêt.
Pour Star Wars, vous avez quelques extraits sonores.
Non plus.
Non plus. Très bien, à tout de suite quand même. Juste après Rose, l'arme à paillettes sur Europe. L'arme à paillettes, c'était Rose sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous êtes bien calé sur la rampe de lancement idéale pour les vacances de Noël. L'équipe est sauvage, l'émission hybride qui allie investigation journalistique rigoureuse et bonne humeur débridée, la tradition de l'info et l'exotisme du divertissement, un peu comme si la femme de Francky Vincent reprenait Petit Papa Noël en version zouk. Mais je pose la question, est-ce souhaitable ? Clovis Cornillac est notre invité avant Noël.
Eh ben oui.
Et là, le public était censé applaudir et ça a été un très beau moment que j'utiliserai dès la rentrée. Clovis, le 1er janvier, on va vous retrouver dans Les Vétos, premier film de Julie Manoukian. Un film où beaucoup d'entre nous vont découvrir que, loin de l'image d'Épinal du vétérinaire, le métier qui fait rêver tous les enfants, Véto, c'est quand même plutôt un sacerdoce, surtout en milieu rural.
Eh ben oui, j'ai décidé maintenant d'aller virer ma réplique.
Comment vous avez travaillé ce rôle ? Parce que Je vous connais un peu, vous travaillez un peu à l'américaine, vous étudiez les détails, les gestes, par exemple, du vétérinaire, vous avez suivi un veto pour voir...
Je ne pense pas que ce soit l'expression juste à l'américaine, parce que dans le Morvan, on n'est pas tout à fait à l'américaine, mais l'idée, c'est de se nourrir, c'est-à-dire d'avoir un maximum d'informations, d'avoir une sorte de passif, de se créer comme une fausse vie, et ça, quand tu bosses un rôle en amont, ça te permet vraiment d'avoir du temps pour remplir. Et puis au moment où tu vas commencer à jouer, tu peux oublier tout ça. Et ça devient comme un passif, comme quelque chose qui aurait... comme une vie qui aurait été...
C'est-à-dire un automatisme,
parce que
déjà...
Oui, parce que c'est comme ça qu'on a l'impression, quand on vous voit avec votre micro, avec votre truc, il y a des automatismes, quoi. Si jamais c'est... Si, on vous voit
c'est
avec votre
vrai,
micro.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais. Ah, c'est vrai que c'est étrange, mais...
C'est étrange, oui.
Parce que vous êtes très grand.
Et Clovis, vous avez cette phrase très belle, « Aller au cul d'une vache impose des précautions ».
Absolument, elle est très belle et elle est vraie. C'est-à-dire que...
Comme un cheval, l'occasion il peut y avoir une ruade.
C'est-à-dire quand tu fais ce qu'on appelle une fouille, c'est-à-dire que...
Ah oui, et oui.
Il faut aller vérifier dedans.
Bien sûr.
C'est Noémie Schmitt qui s'y colle dans le film, en
l'occurrence. Non, elle fait un vélage.
Oui, elle fait un vélage, oui.
Là, pour le coup, elle... Oui. Mais elle a fait une fouille aussi, évidemment, pour être sûre que c'était là.
Oui.
C'est vrai qu'il faut faire super gaffe. C'est-à-dire que c'est des animaux de 500 kilos. Enfin, je veux dire, on... Avec le veto, on en parlait. Il dit tu mets des protections sur les genoux, sur les trucs, parce que la vache n'est pas forcément toujours accueillante à ce moment-là, et ce qui est normal. Donc, tu es dans un rapport entre tenir ton appareil, le bras enfoncé là-dedans. Si la vache, elle se couche, par exemple, ça leur arrive à tous, hein, la vache se couche d'un coup, elle te pète le bras. C'est-à-dire, tu as le bras coincé dedans avec l'épaule démise. Et puis, voilà, faut retirer le bras, faut que tu te casses, t'es tout seul. Enfin, t'es avec l'éleveur, mais y a pas. Et quand c'est un taureau, tu fais pas de fouille.
Les vétos. Les vétos, la vraie vie des vétérinaires. Eva, pour refermer cette séquence, un proverbe à la con.
Un chat te juge, un chien te fait la fête.
Merci. À suivre, il est un des piliers fondateurs de cette émission. Hélas, comme Obi-Wan Kenobi avec Anakin Skywalker, les élèves sont peu à peu devenus plus forts que le maître, qui stagne aujourd'hui à la 8e place du classement européen des meilleurs journalistes. L'essoufflement de la saga Star Wars, son sujet aujourd'hui, lui permettra-t-il de renouer avec la Force ou continuera-t-il de dériver vers le côté obscur de la loose? En tout cas, il n'a pas l'air de trop stresser.
Bien là, pépouze.
On verra si vous êtes aussi pépouze tout à l'heure.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, édition spéciale, dernière avant Noël. Alors on met tout pour vous, pour le public qui a bravé la galère des transports pour électriser le studio Merlin. Rien n'est trop beau. Si votre fantasme le plus secret pour les fêtes, c'est de vous faire fouetter avec du gui par Eva Rock déguisée en Mère Noël en écoutant les chœurs de l'Armée Rouge chanter Jingle Bells... C'est possible. En plus, Clovis Cornillac est avec nous. Clovis, comment vous sentez cette émission?
Je viens de gagner 1 million d'auditeurs.
Oui, 1 million ou 2, Clovis, ne chipotons pas. Le 1er janvier, on vous retrouve en Vétérinaire surmené dans Les Vétos, premier film de Julie Manoukian avec Noémie Schmitt, Michel Jonas et Lilou Fogli, votre compagne dans la vie. C'est compliqué de jouer avec sa compagne, en plus elle incarne votre compagne aussi dans le film. C'est plus dur ou plus simple?
Oh non, il n'y a pas de différence. Ce qui compte, c'est la qualité des gens avec qui on travaille. Il s'avère que c'est une bonne actrice. Et du coup, quand Julie Manoukian lui a proposé de jouer ça, moi j'étais un peu surpris parce que je m'y attendais pas. Et du coup, l'idée, c'était plus... Moi, je travaille régulièrement avec Lilou parce qu'elle est aussi auteure, elle est scénariste. Et pour beaucoup de mes films, elle écrit. Elle fait partie... elle n'écrit pas que pour moi, malheureusement. Elle écrit pour beaucoup d'autres et elle joue pour beaucoup d'autres. Mais ce moment-là était plutôt chouette parce que c'est un rôle... beaucoup de femmes, justement, et d'hommes de vétérinaires, de mari ou de femmes de vétérinaires, se reconnaissent beaucoup dans son rôle.
Alors Clovis, il est notre deuxième journaliste en compétition aujourd'hui. C'est un Jedi en péril. Après un démarrage tonitruant dans le championnat européen, il enchaîne désormais les revers, c'est tôle sur tôle. La dernière fois, ultime humiliation, l'invité, le journaliste Karim Rissouli, ne l'a même pas pris en compte au moment du vote.
J'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour Mathieu Charrier dans la vraie vie, mais aujourd'hui, je suis désolé Mathieu, ce ne sera pas vous. J'hésitais beaucoup entre les trois.
Il a même pas hésité avec toi, quoi, c'est-à-dire...
Mais ça, c'est son éthique qui le pousse à...
Oui, c'est son éthique, oui. Pauvre Matounet, pour rebondir aujourd'hui, vous avez choisi un sujet vraiment fédérateur. Star Wars.
Oui, parce que depuis plusieurs jours, à l'occasion de tous les sujets qui peuvent être diffusés dans la presse autour de la sortie de Star Wars 9, vous entendez dire que c'est la fin de la grande saga,
oui,
etc.
Oui, c'est comme
etc.
ça que c'est vendu.
C'est comme ça que c'est vendu. Alors vous imaginez bien que Disney, qui a racheté Lucasfilm, donc la marque Star Wars, en 2012, qui a payé ça 4 milliards de dollars, ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est qu'ils se rendent compte que la grande saga Star Wars, elle est en train de s'essouffler. Vous savez, la grande saga, c'est les personnages qu'on connaît tous, même si on n'a pas vu les films. Dark Vador, Luke Skywalker, Princesse Leia.
Et ils paraissent toutes morts au bout d'un moment.
En fait, ils sont morts, ressuscités, remorts. Enfin bon, il y a un moment, on ne sait plus trop quoi en faire. Et ce qui a mis la puce à l'oreille, c'est le dernier film qu'ils ont sorti, qui était le film consacré au personnage d'Han Solo, vous savez, qui est joué par Harrison Ford.
Qui a moins bien marché.
Solo et Star Wars Story, il a très moins bien marché. Même
ah ouais
si c'est pas français.
Très moins bien marché, ça, c'est, ça, ça, vous allez gagner des points là.
Donc, et donc, de toute façon, c'est un film américain.
Oui, c'est vrai. Pour le dire en anglais. Donc voilà, ils se sont dit, il y a un petit problème, et ce qui semblerait confirmer la tendance, c'est que le 9 qui est sorti mercredi dernier a pas très bien démarré. C'est-à-dire qu'il a réalisé le pire démarrage pour un Star Wars.
Ça, c'est plus étonnant, parce que l'autre, 2002. c'était un film dérivé.
Exactement, c'était
ce qu'on appelle c'est quand même un vrai Star Wars.
Là, surtout que c'est la fin de la grande saga, c'est-à-dire que c'est censé clouter tout ça, donc on pouvait penser que les gens allaient se ruer en salle. Pas du tout. Alors il y a aussi la grève qui peut-être explique en partie, mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a les deux derniers films Star Wars qui n'ont pas très bien marché.
Et alors, ce que ça veut dire qu'on n'aura plus de Star Wars?
Non, vous allez avoir des Star Wars. Qu'est-ce que va faire Disney? Ils vont garder la marque, mais supprimer toute la vieille famille dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'en gros, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va commencer par mettre en place des séries. Vous savez, c'est plus facile d'installer des personnages sur une série, Clovis le sait. Un film, le problème, c'est que vous avez deux heures pour installer un univers, des personnages que personne ne connaît, une histoire.
C'est le principe du cinéma, Mathieu Charrier. Je vous rappelle que vous êtes le monsieur cinéma d'Europe 1. Oui, mais c'est pas, vous tirez une balle dans le pied.
Oui, mais
quoi.
Pourquoi? Non, mais alors là, on peut digresser, mais pourquoi les séries fonctionnent aussi peut-être en ce moment mieux que certains films au cinéma? Parce que dans une série, vous avez le temps d'installer un univers. Quand vous avez 8 épisodes d'une heure, et ben vous avez le temps de que le public se plonge dedans. Bref, je referme la parenthèse. Donc Disney s'est dit, on va créer des séries. Ils ont lancé Disney Plus aux États-Unis, vous savez, l'équivalent de Netflix,
ouais,
qui va
plateforme.
Bientôt arriver en France, ce sera pour fin mars.
Ah, et c'est là-dessus qu'ils vont vous fourguer du Star Wars.
Évidemment, dans le monde. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? La série phare du lancement de Disney Plus aux États-Unis, c'est une série qui s'appelle The Mandalorian, qui est une série basée sur l'univers de Star Wars. Et évidemment, ce qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est qu'ils vont reprendre tout ce qui est VT dans l'univers de George Lucas. Alors ils vont développer une série sur Obi-Wan Kenobi, sur Cassian Andor, qui est un personnage qu'on avait découvert dans Rogue One. Donc voilà, ils vont reprendre, si vous voulez, la marque Star Wars. Et autour de ça, ils vont développer tout un tas d'univers. Et puis quand même, ils annoncent déjà que dans 3 ans, le temps de se poser, de réfléchir un peu, on aura de nouveau droit à des films Star Wars, donc qui sortiront en salle, qui écraseront tout sur leur passage, parce que c'est quand même ce qui se passe. C'est-à-dire quand un film Star Wars sort, il sort sur plus d'un écran sur 5 en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que tous les autres films, ils sont obligés de s'écarter et de laisser le Star Wars.
Il ne faut pas sortir le même jour que Star Wars. C'est la cata.
Mercredi dernier, il y a quasiment, à part Notre-Dame de Valérie Donzelli, qui a eu le courage de se mettre un peu au milieu et qui démarre d'ailleurs plutôt pas trop mal.
C'est tellement différent. Il faut vraiment être un film
très différent. Il faut pas être un film. Ça, il y a des distributeurs sur Internet, des producteurs de films qui disent aux distributeurs et aux exploitants de salles, vous exagérez parce que nous, on a des films, notamment celui qui distribue Les Misérables, qui marche très bien et on vient de nous le virer de plein de salles
à cause
pour installer Star Wars. Donc c'est un peu dommage.
Mais ça ne va pas lasser les fans, cette overdose alors, Star Wars en
série maintenant. Déjà que ça lasse les gens qui n'aiment pas Star Wars, vous imaginez.
Alors, voilà, mais, juste, non, mais c'est très intéressant. Je pense que ce qui va se passer, c'est que la base de fans de Star Wars va se réduire. C'est-à-dire que vous n'aurez plus les Star Wars qui font 10 millions d'entrées, comme quand le 7 était sorti. Vous allez avoir des Star Wars qui vont peut-être faire 2-3 millions d'entrées, ce qui sera déjà suffisant.
Ça sera plus fédérateur, ça sera un film de fans.
Ça va devenir des films qui vont très bien marcher, mais qui ne vont plus être des films qui attirent 10 millions de personnes. Mais vous savez, Disney, cette année, ils ont déjà, à l'heure où on se parle, ils ont déjà dépassé les 10 milliards de dollars de recettes Disney Studios dans le monde. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du cinéma. Et donc, vous inquiétez pas, vous allez continuer à bouffer du Star Wars.
Je m'inquiète pas du tout, Mathieu Charrier. On va voir tout de suite si vous allez avoir des points. Vous êtes fan de Star Wars, Clovis Cornillac?
Non, mais ce que je trouve...
Non, ça commence bien.
Non, mais là où je suis, moi, un peu triste, c'est vrai qu'on parle de milliards et tout ça, et c'est très bien. C'est pas la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Ce que je trouve très dommageable pour le public, hein, pour nous qui allons au cinéma et qui aimons ça, ou qui aimons les plateformes, les séries et tout, c'est que je trouve qu'il y a un déficit d'idées. C'est-à-dire que d'un point de vue créatif, on ne peut pas dire que Star Wars, ce n'était pas une idée géniale. On ne peut pas dire que les dessins animés Walt Disney n'étaient pas déments, qu'ils ont racheté la Fox et tout ça. Mais je trouve que ce qui est terrible, c'est qu'on a le sentiment que leur line-up sur les 20 ans à venir, c'est des sequels, préquels, wequels, mi-quels, sequels, ouais. Et qu'il n'y a rien, il n'y a pas une idée, on n'a pas
un nouveau
projet.
Mais vous savez pourquoi, hein? Parce qu'aujourd'hui, Disney, comme les très gros studios, comment ils procèdent? Ils font un film, ils le font, passent en séance test aux États-Unis, c'est-à-dire des séances dans lesquelles ils rassemblent des centaines de spectateurs qui ont des questionnaires qu'ils doivent remplir. Et le seul truc qui les intéresse, c'est de prendre le moindre risque possible. C'est comme en finance. Ouais, ouais. Donc si vous mettez une marque.
Ça devient de la finance.
Devient de la finance avec des personnages connus. On sait que pour lancer des films, même en France, des films sans tête d'affiche ou quoi, c'est quasiment impossible. Alors eux, ils se disent, on prend aucun risque.
Mathieu Charrier, on vous remercie en tout cas pour cette ultime chronique de l'année. Et comme on risque de ne pas se revoir avant les fêtes, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Mathieu, pour 2020?
L'objectif maintenant, c'est tout simplement de gagner beaucoup d'argent.
Bien, comme vous êtes salarié d'Europe 1, je vous souhaite bonne chance.
C'est mal barré.
Ouais, mal barré. À suivre, c'est le match dans le match. Celui qui passionne tous les fans des Varrocks, ils sont tous présents dans le studio aujourd'hui. C'est QFD. Le quiz vicieux qui oppose chaque jour Eva à notre invité sur un thème qui avantage clairement l'invité aux dépens d'Eva. Attention tout de même, Clovis, à ne pas vendre la peau de la cougar avant de l'avoir tuée. Eva a de la ressource.
J'ai fait de plus grandes études que Simone de Beauvoir.
Après, elle peut bluffer aussi.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
L'équipée sauvage, vous le savez, porte des valeurs humanistes. Respect de l'autre et bienveillance sont pour nous plus que des mots, un mantra. C'est pourquoi j'ai spécialement demandé aujourd'hui à notre invité Clovis Cornillac de ne pas trop ridiculiser Eva Rock dans le quiz qui va maintenant les opposer. Clovis, un mot fair play à Eva avant de commencer.
Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, magne-toi, ça va péter dans 15 secondes.
Vous voilà prévenu, Eva. Clovis Cornillac, vous allez affronter Eva sur un quiz dont le thème sera évidemment les animaux de la ferme. Petit D'accord. clin d'œil à votre film Les Vétos qui sort le 1er janvier. Alors c'est un vrai faux, une bonne réponse, un point, c'est parti. Clovis Cornillac, on commence avec vous. Qui gagne un 100 mètres, Usain Bolt ou un chat domestique?
Usain Bolt.
Mais ne me regardez pas.
Et Mathieu Charry, qui s'y connaît vraiment bien en animaux, fait oui de la tête. Eh bien non, le chat. Le Jamaïcain court le 100 mètres en 9 secondes 58, c'est le record du monde. Pour une vitesse de 37 km/h, le chat atteint les 40 km/h, ça nous fait 100 mètres.
Sur 100 mètres.
À 9 secondes en moyenne.
Sur 100 mètres, il les fait, le chat.
Et je pense que c'est le chat lancé qui va plus vite. Ouais, que pas s'ils partent en même temps.
Alors, là, je suis pas. Je m'inscris en faux, j'ai jamais vu un chat faire 100 mètres.
Clovis Cornillac dépose une réclamation, c'est la première fois dans l'histoire du quiz. Et je pense. Mettez-vous, Charrier, laissez-moi parler. Effectivement, je pense. Je vous donne le point. Eva Rock, une question vache.
Là, vous donnez le point.
Non, je ne vous donne rien du tout. Une question vache, vous connaissez le fromage, la vache qui rit?
Mais non.
Eh bien, avant,
pas.
Son concurrent était la vache sérieuse. Vrai ou faux?
N'importe quoi. Alors d'abord, vous savez que j'en mange pas. Et ensuite, non.
Bon, mais je m'en fous. Quelle est votre réponse? Je ne demande pas votre biographie.
Je dis que c'est faux.
Vous dites que c'est faux? Eh bien, c'est vrai. En 1921, Alonce-le-Saunier est lancé la fameuse vache qui rit. Mais en 1926, basé également à Alonce-le-Saunier, un autre fromage est lancé, un rival, la vache sérieuse. Il va devenir même sponsor du Tour de France avec ce slogan: le rire est le propre de l'homme, le sérieux, celui de la vache. La vache sérieuse, on la trouve dans les maisons sérieuses.
Réclamation. C'est pas du tout l'intitulé de la question. Vous me demandez si c'était le même fromage qui porte un autre nom. Là, c'est deux fromages différents.
Non, non, foutez de ma gueule, Eva.
Pas ça la
Eva,
question
n'essayez
suivante.
Pas de, n'essayez pas de truquer le jeu. Après 33 ans de procès, la vache sérieuse deviendra la vache Grosjean. Vous avez donc perdu, Eva. Eva Rock, Clovis Cornillac, vous jouez en même temps. En février dernier, pas moins de 8 pompiers sont intervenus dans la ville de Belsheim, en Allemagne, pour tenter de sauver un animal dans des circonstances étonnantes. Lesquelles? 3 propositions. 1. Un rat trop gros coincé dans une plaque d'égout. 2. Un canard sauvage sur un toit qui ne voulait plus voler et caquetait très bruyamment. Ou 3. Un chat dans un moteur de bus scolaire qui empêchait les élèves d'aller à l'école.
C'est le rat. C'est le rat.
Mais comment vous... Pourquoi... Alors, Ève Roger, qui ne participe pas, veut répondre 2.
Oui, moi je dirais le deuxième.
Alors,
je
vous enlève un point sur le résultat final, puisque c'est faux.
C'est le rat.
Bonne réponse. Effectivement, un rat trop gros. Le rat était trop gros pour sortir comme pour faire machine arrière. 8 pompiers avec des gants ont réussi à l'extirper en soulevant la plaque. Certaines personnes sur les réseaux sociaux ont trouvé exagérée cette débauche de moyens. L'agent municipal a répondu: même les bêtes les plus haïes méritent le respect. Ça, c'est une belle leçon de vie. Clovis Cornillac, en juin dernier, la clinique vétérinaire de Saint-Pétersbourg a fait cette pub. Promotion sur les castrations, une stérilisation de chatte 2500 roubles, un chat 1000 roubles, oui c'est la formulation qui vous amuse Eva probablement, gratuit pour les hommes politiques corrompus, vrai ou faux? Et ça fait du monde là-bas.
Et c'est à Saint-Pétersbourg?
Saint-Pétersbourg.
Ouais, ils peuvent avoir de l'humour peut-être. Oui.
Vous dites oui?
Oui.
Le problème c'est que, oui ils ont de l'humour mais faux, c'était gratuit pour les maris infidèles. Deux personnes, vous en connaissez évidemment. Deux personnes ont porté plainte pour ruine des valeurs familiales et discrimination sexiste. Pourquoi certains n'ont pas d'humour non plus là-bas. Eva Rock, un petit effort d'imagination, cette question va vous départager. Si j'étais le canard argentin, Larry Mastur Horney, Mon sexe serait plus grand que mon corps. Il ferait donc plus d'1m90. Vrai ou faux? Regardez-moi bien dans les yeux pour cette question. Essayez de vous imaginer la chose.
Visualisez. Ah bah non, s'il vous plaît.
Ah oui, il faut visualiser. Supplie. C'est votre quelle seul horreur. Moyen de réussir à répondre. Bah, quelle horreur, je vous en prie.
Bah, non, mais franchement... Comment vous voulez... Non, mais
c'est
non,
marrant,
c'est
vous
pas...
le regardez pas.
Mais non, non, non,
il y a presque une angoisse. C'est comme
non, mais là, c'est... j'en ai pour des jours entiers d'angoisse, quoi. Je vais me coucher en pensant à ça. Non, je dis que c'est faux.
Vous
ça,
dites
ça
que c'est faux.
Ah ouais, ça me paraît.
C'est parfait, comme ça permet à Clovis Cornillac de remporter le quiz. C'était vrai. Alors, ça reste un canard. Hein. Son sexe ne fait que 42,5 cm. Mais sachez qu'il passe de la phase de repos à la phase d'érection en moins d'une demi-seconde. Fascinante nature.
Mais 42 cm en... à quel
oui,
moment
oui, Eva, oui, non, oui, 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 effectivement, non. On l'aura compris. Oui, en action, effectivement.
D'accord.
Enfin, c'est en tout cas, j'espère. J'essaie. Il ne regardera plus jamais un canard de la même façon. Clovis Cornillac passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, on croirait un titre du Gorafi. Pourtant, c'est une véritable affaire qui agite la police allemande. Le gang des nains, toujours en fuite après le casse du siècle à Dresde. Un butin d'1 milliard d'euros. Eva, une piste?
Goebbels.
Non. 1m65, ça se tient. Mais on demandera à Hélène Kohl, notre correspondante en Allemagne, si elle n'a pas une version plus crédible. Ce sera juste après Paul McCartney, In a Hurry, sur Europe 1. In a Hurry, c'était Paul McCartney sur Europe 1.
L'équipe sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
L'équipe sauvage en public et avec Clovis Cornillac continue. Et à ce stade de l'émission, les amis, j'espère que notre collègue Christophe Ondelat nous écoute, car lui qui est friand de faits divers au titre croustillant...
Philippe Cléty était ce qu'on appelle communément une bite à roulette. Et bien au plus marre, il va utiliser la baguette en bambou.
Oui, la curiosité de Christophe Ondelat devrait être piquée par ce fait divers allemand dit du gang des nains que va nous conter Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu.
Alors de quoi s'agit-il?
Eh bien de ce casse spectaculaire au musée de Dresde. On est un mois après et on n'a toujours aucune trace des voleurs ni de leurs complices qui les attendaient en voiture. Ils se sont fait la malle avec 20 parures de diamants montées sur des broches, des médailles, des colliers ou encore le pommeau d'une épée. On parle d'une centaine de pierres précieuses. Il y en a pour plus d'1 milliard d'euros dérobés en 10 minutes.
Mazette.
Quasiment sous le nez du personnel de sécurité qui était d'ailleurs dans le bâtiment et qui a tout suivi en direct sur les écrans de surveillance.
Mais alors Hélène, que fait la Polizei?
Eh ben, la Polizei, elle est arrivée 3 minutes trop tard. Et puis depuis, elle a créé la fameuse commission. Alors là, c'est très très drôle. Ils ont créé une commission, ils appellent la commission Épaulette. C'est le nom de code qu'ils se sont donné eux-mêmes. C'est une brigade criminelle spéciale créée donc le matin du casse. Ils sont 40. Ils travaillent que sur cette affaire et ils n'ont pas avancé d'un pouce. Et comme ils promettent quand même 500 000 euros pour toute information qui fera avancer le dossier, je vous pose la question, Mathieu. Où étiez-vous ce 25 novembre dernier à 4h58 du matin?
Bah écoutez, je vais regarder mon agenda, mais je vais essayer d'y être. Comme ça, je pourrais les aider et toucher les 500
voilà.
000 euros.
En fait, bon, je plaisante, je sais que vous n'y êtes pour rien, parce que figurez-vous que l'un des très rares indices qu'on a sur les deux voleurs, c'est qu'ils sont de très petites taille, une sorte, vous avez dit, de gang des nains. Alors moi, je vais dire le gang des lutins. Ça fait un petit peu plus festif en ce moment. Si ça se trouve, sous le sapin, on aura un des fameux bijoux de la couronne de Saxe. Et c'est pas une blague, en fait. Ils sont vraiment très petits.
Et c'est des enfants ou c'est des nains?
Alors, la fenêtre par laquelle ils sont passés est assez étroite. Et ensuite, effectivement, on le voit sur les images de la caméra de surveillance, ils sont clairement plus bas que la vitrine qu'ils attaquent à coups de hache.
Ah ouais.
Au début, on a dit qu'ils étaient partis par un conduit d'évacuation. Donc, ça faisait vraiment lutin, le Père Noël, la cheminée et tout. En fait, non, ça, la police dément. Mais par contre, elle confirme bien qu'elle a une piste très sérieuse. Ça pourrait être des adolescents. Et en fait, ça s'est déjà passé comme ça dans un précédent casse, dans un musée ici à Berlin, il y a 2 ans et demi. Même mode opératoire, et c'était l'œuvre d'un clan criminel qui avait donc fait travailler les plus jeunes sur ce coup-là. Et donc, on y est. Voilà, c'est le casse parfait, vraisemblablement, cette histoire de Dresde, qui tient l'Allemagne, évidemment, en haleine. Vous imaginez, le commissaire Épaulette contre le gang des lutins, ça va être l'histoire de Noël ici.
Mais il est quand même étonnant, Hélène, qu'on ne pense pas dans cette affaire à l'hypothèse la plus simple, qui est que les lutins du Père Noël débordés de travail aient fini par eux-mêmes attaquer cet endroit pour trouver des parures de diamants et ne pas avoir à les construire, à les fabriquer eux-mêmes. C'est à mon avis les lutins du Père Noël qui ont fait le coup directement.
Ouais, ça me semble assez probable, bon, surtout qu'on le sait, maintenant ces diamants ne pourront jamais être vendus hein, parce qu'ils sont très identifiables. Donc à moins vraiment de tous les casser en 1000 morceaux, impossible à vendre, impossible de récupérer le butin en fait en liquide. Donc l'hypothèse un petit peu magique de Noël, tiens.
Merci beaucoup Hélène Kohl pour cette magie de Noël en direct de Berlin.
Europe 1.
À suivre, une deuxième heure d'infos et de rire se profile. On continue d'évoquer, c'est le thème du film que nous présente Clovis Cornillac, la beauté du monde animal et la beauté d'un métier, celui de vétérinaire. Métier qui a fasciné bien des acteurs avant Clovis. J'aurais notamment une pensée ici pour l'illustre Jean Rochefort qui entretenait avec les chevaux des liens étonnamment étroits.
C'est tellement beau.
Et puis ce contact, les lèvres d'un cheval, ça. Nettoyer une vulve de jument, c'est pas assez un beau dimanche.
Quand je pense que moi le dimanche je regarde Turbo, puisse l'esprit de Jean Rochefort détendre un peu sur moi.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Bientôt la mi-temps pour nos valeureux combattants de l'info. L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 va bientôt accueillir deux nouveaux prétendants à la couronne suprême de chroniqueurs du jour. Vous apprendrez notamment d'où vient cette étoile que vous fixez chaque hiver au sommet du sapin. Vous apprendrez également à bien choisir votre vin pour Noël. Olivier Pouls, rédacteur en chef de la revue du vin de France, nous guidera dans la jungle des fausses bonnes affaires. Le tout sous l'œil de notre invité d'honneur Clovis Cornillac, qui incarne un vétérinaire dans un film qui sort le 1er janvier. Vétérinaire, une profession que nous avons déjà mis à l'honneur ici, pas plus tard que vendredi dernier, avec la véto Farah Kessri qui échangeait au sujet de leur discipline respective avec le docteur Michel Simès.
Quand on voit ce que les vétos font aux vaches, j'aimerais pas me faire examiner la prostate par un vétérinaire.
Je suis sûre que je suis plus délicate que vous pour un toucher rectal.
Eh ben, faudrait qu'on essaye.
Chiche.
Une séquence qui, c'est certain, a dû susciter pas mal de vocations chez nos jeunes auditeurs. Heureusement, j'entends le carillon. Il signifie, Eva, qu'il est déjà 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Vous écoutez l'équipe est sauvage en public le vendredi, 2 heures pour accroître votre joie de vivre, booster votre culture G, bousculer vos sens et parfois les miens. Comme mercredi dernier, nous recevions l'actrice Ludivine Sagné. Est-ce mon charme naturel, mon charisme magnétique, mais son regard perdu dans le mien, faisant abstraction du monde qui nous entourait, des auditeurs et des journalistes présents dans le studio qui bavaient. Soudain, Ludivine m'a dit...
Les bons coups, ça arrive sans qu'on les cherche parfois, vous savez Mathieu.
Je vais réfléchir à cette phrase. Aujourd'hui, nous recevons Clovis Cornillac. Ah non, ils sont cons, mais non. Non. Clovis, le 1er janvier, on vous retrouve à l'affiche du film de Julie Manoukian, Les Vétos. On continue d'en parler bien sûr, juste le temps de vous présenter nos deux derniers journalistes en compétition ce soir. À ma gauche, chaque fois qu'il arrive, surmonté de ses lunettes d'enquêteur de la Stasi, c'est toute la magie des années 80 en Allemagne de l'Est qui ressurgit. Directeur de la revue Ciel et Espace, sosie de Derrick La Nuit, je vous demande d'accueillir chaleureusement Alain Siroux. Alors, Alain, aujourd'hui, vous aussi...
Ça va faire la saison
petite,
entière.
Petite parenthèse, le jour Alain me dit que son opticien lui a fait une réflexion. C'est vrai ça, Alain?
Oui, c'est vrai.
Il vous a engueulé?
Non, il m'a dit, est-ce que vous voulez changer vos lunettes?
Alain Siroux, vous êtes notre scientifique. Vous allez, vous aussi, vous adonner à la magie de Noël, mais en tentant néanmoins de la décrypter un petit peu.
Oui, c'est une étude extraordinaire qu'on appelle de l'archéoastronomie.
Wow.
Si on regarde effectivement la crèche, alors... Il y a l'âne, il y a le bœuf, mais il y a une étoile au-dessus. Et si on accepte en se disant, bon, peut-être qu'il y a eu un événement astronomique, quel est cet événement?
Mais c'est pas l'étoile du berger?
Votre hypothèse.
Ah, c'est une hypothèse, d'accord.
Mais des archéologues, des historiens et des astronomes ont enquêté pour savoir ce qu'était cette étoile de Noël.
À vos côtés, Clovis Cornillac, il va nous emmener loin, très loin. Alain, vous qui êtes savant, vous savez peut-être ce que signifie « Jolabokaflod » en islandais?
Une petite chatte.
Non Alain, non, ça ne signifie pas petite chatte, même si d'un point de vue freudien c'est intéressant. Non, Nicolas Caro, c'est vous qui allez nous expliquer ce que signifie, est-ce que je le prononce bien, Jolabokaflod?
Le Jolabokaflod, ouais. C'est une tradition islandaise qui consiste à s'offrir des livres à Noël. Mais tout le monde le fait, c'est systématique.
C'est aussi important là-bas que Noël, proprement dit, pour
1944.
Eux. Le programme est donné, quel sujet l'emportera, nous le saurons juste avant 18h. D'ici là, je me tourne vers notre invité d'honneur. Qui est pour vous Clovis Cornillac? On est allé vous poser la question au hasard des rues. Voici Clovis, non pas un banal micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'invité. Voici notre micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir, le montage flagorneur en moins.
Clovis Cornillac, c'est ça?
Il est assez grand, un peu blond, les cheveux épais, l'arrêt sur le côté.
Alors je sais que je l'ai croisé, il me semble qu'il habite pas très loin de Châtelet. Il a beaucoup de caractère dans le visage.
Ah, il est beau gosse, hein. Il faut dire ce qu'il en est.
Si, oui, on peut dire virer les robustes, mais pas très grand.
Bah oui, à première vue, il est sympathique.
Je sais pas, il a l'air plus sympa qu'un harlier habitant, il est naturel. Clovis Cornillac, il a joué à sexe,
c'est vrai? Vous saviez pas? Ah bon?
Généreux, ouvert, charmeur, bien sûr, mais ça c'est tous les acteurs.
Non, je vois bien sa mère qui est aussi une actrice, qui est une dame plutôt sympa, donc j'imagine qu'il a dû être élevé avec des valeurs.
Clovis, je t'adore, mais j'adore surtout Mathieu Noël. Gros bisous de la part de Nathalie.
Oui, il n'y a pas de flagornerie envers les invités, en revanche envers moi, on se fait plaisir. Hein. Ah ouais, le montage, c'est moi qui le fais en fait.
Ouais, c'est Noël.
Voilà, il faut se faire plaisir. Clovis Cornillac, je crois qu'après la grande boucle en 2013, vous avez eu un petit passage à vide, vous étiez un peu au bout d'un cycle, vous disiez vous-même.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous étiez au top en 2013 déjà.
Oh, c'est pas... comment on peut dire ça? Ça m'est arrivé aussi au théâtre des années avant. À un moment, une sorte de... L'impression qu'on va faire les choses sans conviction. Ou, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est un peu éteint avec ce film. Peut-être le film de trop à ce moment-là. Et je me suis dit, maintenant, il faut arrêter ça. C'est-à-dire que c'est pas juste vis-à-vis du public potentiel qui n'a pas été là d'ailleurs, donc voilà. Mais c'est pas juste aussi vis-à-vis des gens avec qui on travaille. Donc j'ai eu un petit j'ai dit non à tout comme acteur en me disant voilà, je me pose. Et c'est là qu'est venue la réalisation. Et en fait, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie depuis.
Si vous deviez abandonner l'un des deux, ça serait plutôt acteur. La réalisation, c'est devenu vraiment le centre de votre vie.
C'est la plus belle chose. Voilà, c'est extraordinaire de réaliser. C'est fabuleux. J'aurais jamais imaginé que c'était une aventure aussi forte et aussi puissante. Donc, mais c'est pas pour autant que je joue plus.
Alors, dans notre micro-trottoir, une femme disait qu'il était sympa a priori, après une heure passée en son compagnie. Je peux affirmer qu'il est aussi sympa a posteriori. Clovis Cornillac est avec nous jusqu'à 18h. À suivre, est-ce pour les besoins de l'enquête qu'il va nous présenter dans quelques instants sur la signification de l'étoile au sommet du sapin ou pour son plaisir personnel? Mais Alain Sirou aurait été aperçu aux abords du Sexodrome dans le quartier de Pigalle à Paris. Il abordait les passants déguisés en Père Noël avant d'ouvrir au dernier moment son grand manteau rouge en s'exclamant
« C'est pour qui la grosse friandise ?»
Magie de Noël, quand tu nous tiens. Faites gaffe Alain, on ne pourra pas toujours vous couvrir.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Quatre journalistes, une couronne, une même soif de vaincre, un public en délire et un animateur. Là, ça c'était le public, c'était juste Eva qui faisait ouh. Et un animateur exceptionnel, même si ce n'est évidemment pas à moi de le dire. Néanmoins, si je ne me suis pas trompé en recopiant son rib tout à l'heure, Clovis Cornillac doit être en mesure de dire quelques mots sur moi.
C'est un vrai pro, un super technicien. Il sait tout faire. Je sais ce que je dis, c'est moi qui lui ai présenté.
Impeccable, au moins prêt. C'est ça que j'aime bien avec les grands acteurs. On paye, mais derrière, ça suit. Hein. L'équipe est sauvage continue avec l'entrée en piste d'un concurrent qui, à part en matière optique, commet rarement d'erreurs. Bien sûr, son casier judiciaire n'est pas vierge.
Recherché dans tout le pays pour vol, incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile et concubinage avec une jument.
Oui. Une rochefort, comme on dit dans le petit milieu de la zoophilie. Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Mathieu, bonjour Clovis, bonjour à tous.
Aujourd'hui, même si on part de loin après cette introduction, on va parler de la magie de Noël, mais on va surtout essayer de comprendre l'origine d'un mystère. Pourquoi place-t-on une grosse étoile au sommet du sapin?
Oui, c'est une vraie enquête et il n'y a pas grand-chose pour démarrer cette enquête, si ce n'est l'évangéliste Matthieu, c'est le seul d'ailleurs qui en parle, et qui écrit des mages venus d'Orient arriver à Jérusalem et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et ça, c'est le départ de l'enquête. Il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Et donc, l'enquête s'oriente d'abord sur quand est né Jésus-Christ.
Ah bah, ah oui, ça déjà, c'est une première base importante.
Alors, vous allez répondre le 25 décembre. Oui, vous avez raison. Sauf que ce 25 décembre a été fixé en l'an 525 par un moine qui s'appelle...
Il l'a fixé au hasard. Pas
complètement. Il l'a fixé en fonction de la fondation de Rome, qui l'a daté de 753.
Mais donc c'est complètement imprécis.
Alors il s'est trompé de 4 ans, au moins parce qu'il a oublié en particulier le règne d'Auguste. Alors pourquoi le 25 décembre? Parce que c'est très près...
Bourré.
Tout simplement.
Ah, bon.
c'est la bonne explication.
C'est très près de comment dire, du moment où le soleil est le plus bas.
Du solstice.
Solstice. Merci Eva, j'avais un blanc.
Eva qui est obligée de vous souffler le solstice, ouais. On va vérifier votre CV de scientifique. Hein,
c'est une fête païenne, le solstice.
Vous ne croyez pas du tout en mon intelligence quand même.
C'est la renaissance de la lumière.
Je crois beaucoup en votre intelligence, moins en votre érudition.
D'accord.
On parlera de l'équinoxe. Et donc c'est associé à la lumière, à la renaissance, etc. Mais on a déjà une date. Moins 4. Et on sait aussi dans l'histoire que Jésus-Christ est né sous le règne d'Hérode, qui lui est mort en moins 4. Donc déjà, là, on a une limite vraiment supérieure.
Ça, on en est sûr.
On sait aussi que le recensement des enfants en Judée, celui qui va conduire justement à la décision d'Hérode d'éradiquer, enfin de tuer tous les enfants de moins de 2 ans, a été décidé en l'an moins 8. Donc on a une fourchette. Maintenant, d'où venaient les rois mages? Les rois mages, on pense... Alors d'abord, ils n'étaient pas rois. Ça a été rajouté beaucoup plus tard.
Mais déjà, est-ce qu'ils existaient?
Alors, vous dites qu'ils étaient mages.
Ah ça, est-ce qu'ils étaient mages?
On pense que c'était plutôt, si on tire l'histoire, des savants, astrologues qui venaient de Babylone et qui, finalement, regardaient le ciel et scrutaient des signes dans le ciel, parce que le ciel parlait pour les astrologues comme étant annonciateur de nouvelles.
Des cousins à vous?
Oui, des ancêtres, absolument. Les ancêtres des astronomes, tout à fait. Donc, la question, c'est quel événement astronomique dans le ciel ont été visibles entre moins 8 et moins 4. Et là, c'est très intéressant. Ce n'est pas la comète de Halley, parce qu'elle est passée en moins 12. Par contre, en l'an moins 7, il y a eu trois fois une conjonction, c'est-à-dire un rapprochement très serré, entre Jupiter et Saturne, qui devait être assez extraordinaire. Trois mois différents dans l'année, où on a vu, à partir d'Orient, et de Babylone en particulier, Jupiter et Saturne très très proches, côte à côte.
Ça faisait comme une étoile.
Alors ça pouvait faire comme une étoile, mais en tout cas quelque chose de très 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 serré. Et en particulier, la constellation des poissons, qui est associé à Israël. Et puis, les Chinois, qui sont des vrais concierges du ciel, pour le compte, ont noté en moins 5 et en moins 4 la présence d'une étoile différente dans le ciel, peut-être une nova ou une supernova, une étoile qui aurait explosé et qui aurait été visible seulement pendant quelques semaines et qui aurait pu renforcer cette idée-là. D'où l'hypothèse que les mages venus de Babylone auraient repéré en l'an moins 7 cette triple conjonction, se seraient mis en route à destination de la Palestine, auraient vu en moins 5 une étoile qui serait apparue en arrivant à Jérusalem et puis se serait dirigée vers Bethléem. Et donc la conclusion de cette enquête, c'est que finalement il n'est pas impossible d'imaginer qu'un signe céleste ait été visible aux alentours de moins 7, moins 6, au moment où les enfants qui avaient été condamnés par Hérode allaient être tués. Et donc, on a cette idée que la lumière, l'étoile, l'espoir, finalement, de la résurrection pouvait s'exprimer aussi à travers le ciel. Mais tout cela n'est qu'une enquête sans conclusion finale.
Merci beaucoup, Alain Siroux, pour ce voyage dans le temps que vous nous avez proposé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes très magie de Noël chez les Cornillac ?
Non.
Vous savez ce que vous allez acheter votre femme cette année ?
Oui.
Vous avez déjà l'idée ? Vous avez même déjà le cadeau ?
Oui, c'est un amant.
un aimant,
on dira plutôt ça. Merci en tout cas Alain Siroux. Votre sujet aura-t-il captivé nos auditeurs et nos invités ? Réponse juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, comment faisions-nous sans Eva Rock pour choisir notre programme télé ? Je vais vous dire, nous étions perdus. Nous tâtonnions dans la jungle, nous dérivions dans l'océan des rediffusions, des vacances de l'amour, des ch'tis à Mykonos. Et parfois, en désespoir de cause, le doigt fatigué d'avoir trop zappé, on se résignait à regarder l'irregardable, un nanar avec des serpents hybrides qui attaquent des acteurs qui jouent très mal.
C'est peut-être pire encore. On dirait une espèce de croisement entre un piranha et un anaconda.
Une sorte de piranaconda.
Et oui, heureusement qu'Eva Rock est là désormais pour nous sortir de ce foutu cauchemar. Eva, vos conseils télé arrivent, mais d'abord, je crois qu'il est temps de jouer. Écoutez.
C'est le Père Noël.
Tes petits grelots, en
c'est
personne.
C'est le Père Noël d'Europe 1, hein. Que d'Europe 1. Vous le savez, tous les jours et jusqu'au 5 janvier, c'est la haute de Noël qui remplit de cadeaux. Alors, à gagner des robots cuiseurs multifonctions, des séjours au ski, des thalassos, des voyages. Aujourd'hui, vous tentez de gagner le nouvel iPhone 11 plus l'iPad Pro, le tout pour une valeur de plus de 2 000 €. Et pour vous jouer, c'est simple, vous vous inscrivez, tirage au sort, en appelant le 39-21, 50 centimes la minute, ou vous envoyez le mot de passe. Ça va être compliqué.
Pourquoi compliqué?
Parce qu'avec mon accent du sud, je vais devoir vous l'épeler, sinon vous allez mal l'écrire. Le mot de passe, c'est HOTE par SMS au 739-21. Ça s'écrit HOTE. 75 centimes.
Oui, HOTE. Si c'est le mot HOTE que vous auriez du mal à prononcer, mais HOTE, vous y arrivez.
Je sais pas, parce que je dis de la même façon.
Mon Dieu. Heureusement que les vacances arrivent.
Allez, trois messages pour jouer. Bonne chance.
Ouais, on a vaguement compris l'idée de ce jeu. Maintenant qu'on a entendu la mère Noël, je vous présente la fille du Père Noël, Jacques Dutronc sur Europe. La fille du Père Noël, c'était Jacques Dutronc sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue sous les vivas d'un public qui n'est pas sans rappeler celui du stade Maracana pour la finale Brésil-Uruguay de 1950. À mes côtés, Clovis Cornillac, Eva Rock, Nicolas Caro, Derrick est là aussi. On passe un moment formidable, d'autant que Nicolas Caro, qui souffre du syndrome Gilles de la Tourette, n'a pas encore fait de crise aujourd'hui. Tout va bien, Nico ?
Tico, quoi, canard.
Non, c'est la fête quand même. Bien sûr, on s'en fout, Nico, c'est un son. Clovis Cornillac est avec nous pour la sortie le 1er janvier prochain du film Les Vétos. Alors, Clovis, on va parler maintenant télévision, écran. Est-ce que ça vous dirait de tourner dans une série ? On se souvient de la série Chef ?
Ouais.
Est-ce que vous avez d'autres projets de ce côté-là ?
Disons qu'il y a des possibilités. Aujourd'hui, la série, aujourd'hui, depuis quelques années, ça devient vraiment un support créatif vraiment chouette. Après, c'est l'écriture qui est longue, qui parce que il faut penser l'écriture en série. Donc ça c'est un travail assez particulier, mais en soi, oui, moi je suis pas, je trouve que il y a des choses absolument remarquables en série, ouais.
Alors justement, il y a des choses remarquables en série, mais il y en a peut-être parfois un petit peu trop. Heureusement, Eva Roque est là pour nous guider.
Eh bien, ce soir, vous pouvez allumer votre télé. Bruno Solo est de retour sur France 5 pour la saison 3 de La Guerre des Trônes. Ce sont des docu-fictions pour découvrir l'histoire de France et la construction européenne. Le premier épisode débute en 1590. Henri IV est aux portes de Paris. 6 épisodes de 52 minutes avec son lot de séduction, de complot, de meurtre et autres successions. Alors, Bruno Solo confirme son talent de conteur, c'est indéniable. Il adore l'histoire et il transmet ça avec passion, avec gourmandise même. Pour les parties jouées, je pense que la série mériterait quand même un peu plus de moyens. Mais bon, j'avais déjà fait cette remarque l'an passé. Enfin, pour ce soir et pour les jours prochains, dernier petit conseil de cette année 2019, vous allez vous installer confortablement et écouter, oui, vous allez écouter votre télé. Un concert capté par les caméras d'Arte, c'était au mois de juin dernier, à Bercy. Sur le côté de la scène, il y a un homme qui est là, il est assis sur un canapé. Un orchestre philharmonique, une dizaine d'artistes sont là aussi. Pour l'homme qui est sur le canapé, en l'occurrence Quincy Jones, le génial producteur et compositeur. En fait, les 70 ans de carrière du monsieur. Et laissez-vous porter notamment par la voix d'une chanteuse qui est peu connue. Elle a le même nom, même prénom qu'une chanteuse française, mais elle est américaine, elle s'appelle Sheila. Vous pourrez aussi entendre Véronique Sanson, la trompette d'Ibrahim Malouf, qu'on avait reçue dans cette émission et qui nous en avait parlé de Quincy Jones. C'est un moment absolument magique, ça s'appelle Quincy Jones Symphony. C'est ce soir sur Arte ou sur le site de la chaîne quand vous voulez profiter de ce grand moment de musique. Il y a même Quincy Jones à la tête de l'orchestre philharmonique à la fin pour conclure cette belle soirée.
Merci Eva, faites attention à vos gestes parce que vous avez fait tomber votre stylo, vous avez renversé de l'eau sur l'invité, ça fait beaucoup en une seule émission. Merci Eva, c'était 17 minutes de gagner. Europe 1. À suivre, nous entendrons le dernier concurrent du jour et de l'année. Un garçon connu pour sa bienveillance envers ses collègues et sa modestie qui se dit...
Bon allez, c'est une vraie chronique maintenant.
Nicolas Caro nous entraîne en Islande, un pays où on aime les livres et c'est lié à une très belle tradition, le Jolabokaflod. Vous nous rappelez ce que ça signifie, Nicolas ?
Tico.
Oui, non, on va faire vite la pub.
Canard.
Europe 1, l'équipé sauvage, 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Si nous étions dans un film taïwanais avec Jean-Claude Van Damme, le titre pourrait être « L'équipe est sauvage, l'ultime combat ». Quatre journalistes qui jouent leur carte de presse dans l'enceinte surchauffée d'un studio Merlin, plus bouillant aujourd'hui qu'une arène clandestine de combat de coq baliné à Java. Sous l'œil complice, mais oui, les moyens techniques sont, on donne tout en cette fin de saison. Sous l'œil complice mais sadique de notre invité d'honneur Clovis Cornillac, qui voit maintenant s'avancer vers le micro, fébrile comme Trezeguet au moment de frapper son penalty contre l'Italie en 2006, le plus tendre de nos journalistes en compétition, avec 47 points à son compteur, il ne peut pas ambitionner de finir champion d'automne. Son objectif, renouer avec une forme de dignité après sa désolante tentative humoristique de mardi face à l'humoriste Max Boublil. Max Boublil qui venait nous présenter un film baptisé Play, et au moment où on discutait des chances de succès du film, Nicolas Caro a osé.
Play, hein? il plaît.
Joli.
Waouh.
Hein?
J'ai touché le
J'ai Télérama, il vous enlève deux T. D'office. Alors, Nico, on essaie de se ressaisir avec une tradition inspirante en Islande.
Oui, c'est la tradition
qui s'est éloignée du micro.
Jolabokaflod.
Ah, vous le dites bien.
Ouais, j'ai vu ça dans le Huffington Post. Jolabokaflod, tout le monde a traduit de lui-même, j'imagine. Mais au cas où, littéralement, ça veut dire le fleuve de livres de Noël. Et effectivement, depuis la Seconde Guerre mondiale, les Islandais s'offrent des livres à Noël. 7 Islandais sur 10 jouent le jeu. Ça représente 40% du chiffre d'affaires de l'édition. En France, Noël, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires. Donc, on offre un livre et après, le repas de Noël, selon... le Jolabokaflod, tout le monde va lire tranquillement dans un coin avec un chocolat chaud. C'est merveilleux.
Oui, c'est une autre culture. Chez moi, c'est pas ce qu'on fait après. Là. Ouais. Bref, je ne m'étendrai pas sur ce qui se passe chez moi. Alors, c'est beau.
On n'est plus en mesure d'ouvrir un livre, surtout.
Non, on n'est plus. Bah, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à le lire. Qu'on voit plus rien. Voilà. C'est une belle tradition, mais d'où ça vient?
Ça date de 1944, exactement, selon le Huffington Post. L'Islande vient de se détacher du Danemark. Elle est indépendante. Mais ensuite, comme souvent dans ces cas-là, c'est plus dur économiquement. Donc, il faut se réajuster. Et donc, notamment, ça passe par limiter les importations, sauf le papier qui n'est pas cher à l'époque. Résultat, les livres remplacent les jouets pour les enfants et ils se généralisent pour les cadeaux pour les adultes. Mais surtout, l'Islande se retrouve, elle s'est émancipée et donc il faut qu'elle se crée une nouvelle identité et ça passe par les livres. Être islandais, c'est lire des livres et c'est resté, ça s'est accentué même, c'est une tradition très très structurée maintenant. Au mois de novembre, chaque année, les Islandais reçoivent un catalogue de 80 pages, le Bókatidindi, avec toutes les nouveautés disponibles.
Mais les Islandais, ils lisent juste après Noël ou toute l'année ?
Alors, peut-être que c'est grâce à ça, mais...
J'aime bien cette relance qui me fait vraiment passer pour un bouffon. Mais les Islandais, le reste de l'année...
Est-ce que c'est une nation littéraire ? C'est ça ce que vous vouliez
Oui, c'est plutôt ça
question.
Que j'aurais écrit, si c'est moi qui avais écrit, moi-même la relance.
Bah, effectivement, c'est une grande nation littéraire. Les Islandais lisent beaucoup, une dizaine de livres par an. En France, c'est un peu plus. Mais en France, on a un petit complexe avec la lecture, donc je pense, moi, qu'on ment un petit peu aux sondeurs. Mais ça n'engage que moi. Et un Islandais sur 10 a déjà publié un livre. Ça, on peut le mesurer. Un Islandais sur 10, c'est énorme. En revanche, les livres sont beaucoup plus chers qu'ailleurs. Un roman, c'est 50 euros en Islande, puisque
ah
beaucoup
bon
de productions maintenant sont plus chères. Ouais, 50 euros le roman.
Mais c'est
ça
hyper
fait
cher.
Deux fois plus cher que nous, en fait.
Mon cher Clovis Cornillac, est-ce que vous êtes inspiré par cette tradition, par cette belle tradition islandaise ?
Oui. Oui, parce que déjà, j'ai eu la chance d'aller en Islande. Il y a...
Vous avez tourné là-bas ?
Non, j'étais allé pour un festival il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. C'est une population et un pays assez hallucinant. Alors maintenant, on m'a dit que c'était devenu très touristique. À l'époque, ça ne l'était pas du tout. Donc, j'ai un souvenir, fort de cet endroit-là. Et puis, la littérature, la lecture, c'est, comme dirait Omar Sharif, c'est mon dada. Donc, j'adore ça. Donc, dès qu'on parle de bouquins, ça m'éclate.
Dites-moi, l'Islande, vous y êtes allé en avion ?
Oui.
Ouais, parce que l'avion, vous ne le prenez plus trop, en tout cas en France.
J'essaye de voilà, comme tout bon bobo qui se fait engueuler par ses mots, mais ils ont bien raison. J'essaye d'éviter voilà, de trop polluer, enfin, de faire les petits gestes. Donc j'essaye d'éviter l'avion intra-France. J'ai vendu la voiture, j'ai plus de scooter. Ouais, non, je fais tout à pied, à vélo et tout ça.
Ah oui, ça va loin dans l'engagement.
Non,
quand même.
Ça va pas très loin parce que j'habite dans une ville, donc je peux. Puis je suis plutôt j'aime bien pédaler, donc ça me gêne pas de faire 30 bornes en vélo.
Revanche, ça gêne vos proches, hein, visiblement, votre passion du vélo. C'est difficile de vous suivre, visiblement. Une fois que vous partez en balade, visiblement, la famille ne veut plus venir avec vous.
Il y a eu des traumatismes, je crois.
Parce que quoi, vous roulez trop vite ?
Mais oui, on roule trop vite, il est trop fort.
Non, pas du tout. C'est que j'ai tendance... Alors, quand je marche ou quand je fais du vélo et tout ça, j'ai tendance à... j'aime bien ça. Donc, c'est vrai que je minimise un peu les distances, mais pas de manière... c'est pas malin de ma part. Hein. C'est juste... je me dis, mais non, on va juste là. Et puis ça va être... Alors, souvent, ça prend plusieurs heures. Donc, ça peut enlacer quelques-uns. C'est vrai que ma douce a un peu souffert. Mais c'est bizarre que vous sachiez...
Oui, c'est bizarre, oui. C'est bizarre, mais je le sais. Je ne sais pas, je ne m'avancerai pas sur ce sujet. C'est une autre histoire. C'est la dernière de l'équipe sauvage avant la quille. Clovis Cornillac est venu fêter les vacances avec nous. À suivre, comme moi, vous êtes une véritable bille en gastronomie. Lors d'une dégustation de foie gras à l'aveugle, vous êtes quand même capable de dire...
J'aurais tendance à penser que c'est du thon. Ouais, ça doit être du thon avec de la mayo.
Eh bien, suivez les conseils d'Olivier Pouls. Notre cordon bleu saura cultiver votre palais et gonfler votre bidou à bon escient. Aujourd'hui, il nous donne un cours d'œnologie gratuit en vue des fêtes. Gratuit en même temps, on est en radio. À tout de suite pour Délice in Extremis.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage en public le vendredi. Un public si chaud que je suis à deux doigts de casser mon micro et de me jeter dans la fosse.
Non, ça va.
Non, d'accord. Clovis Cornillac est notre invité, un invité incroyable de générosité qui, on le sent, est prêt à tout donner pour l'émission.
On pourrait peut-être sucer chaque auditeur. Comme ça, tes chiffres, ils vont grimper, ça va être génial.
Oh oui, vraiment tout, hein. Ah, c'est vraiment... Ça fait plaisir, un invité comme ça. Le 1er janvier, on vous retrouve à l'affiche des Veto, le premier film de Julie Manoukian, on va dire d'où vient ce son.
Mais oui, ce que j'allais
c'est
vous demander.
C'est un film qui s'appelle
sinon...
Radio Star, si je me souviens bien.
Oui, absolument.
C'est un très bon film, Radio
très
Star.
Bon film.
C'est un chouette film, oui.
Chouette comédie.
Oui, absolument. Et puis, avec une belle bande de gars qui sont plutôt sympathiques, rigolos, et qui font tous une belle carrière. Depuis ce film, donc c'est très chouette. C'est des films qui restent, quoi. Font partie des films qui restent.
Tout à fait. Dans ce film, Les Veto, vous donnez la réplique à Noémie Schmitt et vous dites que c'est la révélation du film.
Oui, je pense que une des grandes forces de ce film-ci, c'est de faire émerger deux personnes. Une jeune réalisatrice, Julie Manoukian, qui est absolument formidable, et une jeune actrice, Noémie Schmitt. Et je trouve que, voilà, pour commencer l'année avec deux révélations, et ça va amener de la fraîcheur au cinéma, je trouve ça, voilà, une belle nouvelle. C'est cool.
Pour préparer cette émission, mon cher Clovis, j'ai un petit peu bossé, j'ai enquêté. Voici Secret de Clovis. Tout à l'heure, vous me demandez si je connaissais votre femme. Je ne la connais pas très bien, mais je crois savoir que vous êtes une sorte de geek raté. C'est-à-dire que vous achetez tous les derniers trucs technologiques, mais vous ne savez pas vous en servir.
Absolument.
Ça vous confirme.
C'est-à-dire, je fais... Non, oui, c'est vrai que je suis nul avec tout ce qui est... électronique, technique, ça ne m'intéresse pas beaucoup. En revanche, je trouve ça fabuleux ce que l'humain est capable d'inventer. Donc je suis assez fasciné. Ah bah, moi, les premiers. Et puis, alors, je ne suis pas du tout visionnaire, hein, par exemple. C'est vrai que les téléphones portables.
Vous disiez, ça ne marchera jamais.
Mais j'étais convaincu, je riais au nez des gens. Internet.
Ah oui, Internet, même Internet.
Quand on m'a parlé, les premiers ordis, là, les mecs, ils faisaient des trucs, là, j'avais des potes, je ne sais pas quoi, on voyait des barres, des machins. Il disait, te rends compte, c'est génial et tout. J'ai dit, ouais, putain, c'est passionnant. Ouais. C'est-à-dire, je vois rien, je comprends rien, ça n'a aucun intérêt. Et il me dit, ouais, mais à un moment, tu verras, on communiquera les uns les autres via ça. Cut. On est, quelques années après, les téléphones portables, les bibop, les trucs comme ça, je disais, on est vraiment l'air de truffe, ça ne sert à rien. Cut. C'est-à-dire que systématiquement, je suis voilà, la truffe de je ne vois rien de ça.
Tout à l'heure, vous me disiez que pour Noël, vous alliez offrir un amant à votre femme. Moi, je vous propose un autre cadeau, un téléphone fixe. Parce que visiblement, vous en avez besoin. Et celui que vous avez acheté ne convient pas du tout. C'est-à-dire que
non, et vous votre, la connaissez,
épouse,
c'est pas possible,
votre épouse
c'est
vous a demandé d'acheter un téléphone fixe. Genre le premier prix, 20 euros, tu vois. Et Clovis n'a pas pu s'empêcher, parce qu'il aime bien quand même les nouvelles technologies,
d'acheter lui un très cher.
Une espèce de Rolls-Royce de téléphone qui fait, qui je sais pas, qui est connecté, domotique, etc., mais qui n'a jamais marché.
Ah ben non, parce que c'est-à-dire que ça doit marcher très bien, j'imagine. Mais moi, une fois que c'est branché, si ça marche pas, ben ça marchera jamais.
Tout simplement. Donc il est là.
Mon premier ordinateur, je me souviens, j'avais acheté ça. J'avais tout le monde l'ordinateur, là, la pomme. Du coup, le moment où, c'est pas une vanne, hein, c'est vrai. Je faisais tac, j'entendais ding, je regardais le truc qui s'allumait. Tac, je l'éteignais. Et j'ai fait ça, et puis après je l'ai donné à un petit frère qui était jeune, qui avait besoin d'instruments. J'ai jamais rien fait d'autre avec, mais je l'ai allumé, je l'ai éteint. Et tout.
Clovis Cornillac, l'acteur en avance sur son temps, est avec nous aujourd'hui dans l'équipe Sauvage. Les amis, est-ce qu'on commencerait pas à avoir un petit peu faim?
Un petit peu soif.
Un petit peu soif aussi, j'ai ce qu'il vous faut.
Europe 1.
C'est un personnage haut en couleur qui s'apprête à nous rejoindre. Un hédoniste pur jus dont les deux passions, la gastronomie et le libertinage, parfois se confondent. Si bien qu'on a du mal, en isolant certaines de ses phrases, à savoir dans quel contexte, culinaire ou libertin, il les a prononcées.
Elle est un petit peu plus molle, mais en termes de parfum, elle est là.
Oh,
fermez les yeux, sentez ça. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Délice in extremis, la chronique qui porte décidément bien son nom, arrive juste après Katy Perry. Cozy Little Christmas sur Europe. Cozy Little Christmas, c'était la magie de Noël façon Katy Perry sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Et après la magie de Noël façon Katy Perry, je vous propose à présent la magie de Noël façon Pulse.
Oh oh oh, bonjour les amis. Pas mal, hein.
Clovis Cornillac, je vous présente notre expert gastronomique Olivier Pulse, qui n'est pas que ce bambochard facétieux que je dépeins dans mes lancements, non. C'est un homme engagé, avec de vraies convictions, et dans un monde où tout va à volo, entre le réchauffement climatique, les retraites, l'Amazonie qui brûle, il sait parfois taper du poing sur la table et dire non.
Le vinaigre à l'échalote sur l'huître, alors là, non quoi. Bien beaucoup de choses, mais non.
Bonjour Olivier Pulse.
Et je vous confirme qu'il n'y aura pas de vinaigre à l'échalote sur mes huîtres à Noël.
Ah, j'ai bien compris que c'était votre limite.
Absolument.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cordon bleu que nous accueillons, mais le rédacteur en chef de la revue de vin de France, que vous êtes aussi. Vous nous aidez à ne pas nous planter sur le vin à Noël.
Et puis surtout, lorsque j'ai su que Clovis Cornillac nous rejoignait aujourd'hui, je me suis dit, là, il n'y a aucun doute, il faut parler vin, parce que c'est un grand amateur et un grand connaisseur de vin aussi. N'est-ce pas, mon cher Clovis ?
Absolument, absolument. J'aime beaucoup ça et on partage ça en commun.
Voilà, et donc je me suis dit, 80, un peu détonnant,
pas trop cher,
voilà. Moins de 15 euros. Pour Noël, avec une spéciale dédicace pour Clovis dans un instant. Alors, je vous propose de commencer non pas par un champagne, parce que on le sait, quand on veut acheter un champagne, et Dieu sait si ça peut être bon, c'est relativement cher. Donc tournons-nous vers une bulle un peu plus originale. Et je vous amène dans la Loire, à Mont-Louis-sur-Loire, où vous avez trouvé des créments faits à base de chenin absolument remarquables. Ça ne vaut pas très cher. Et si je devais vous conseiller un domaine, tiens, allez, paf, la taille au loup, par exemple, qui fait une bouteille qui tourne autour des 12 euros et qui en pourrait en remontrer un certain nombre de champagnes bas de gamme, on va dire.
On trouve où ?
Ça se trouve alors au domaine et chez certains cavistes, c'est relativement accessible. Alors, deuxième vin, et là c'est clin d'œil pour Clovis puisqu'il a tourné son dernier film dans le Morvan. Hein ? Et là on est aux portes du Morvan, on est à Vézelay. Magnifique village s'il en est. Et c'est un vignoble qui est en train de renaître. Il y a eu traditionnellement de la vigne dans la région. Il y en a toujours, bien sûr, notamment à Chablis, qui n'est pas très loin. Mais le vignoble de Vézelay avait été un petit peu oublié. Il est aujourd'hui en train de renaître. C'est du Chardonnay. C'est, depuis cette année, à nouveau sous l'appellation Vézelay. Ils ont récupéré cette appellation. Et c'est un vin qui ne ressemble pas à grand-chose d'autre, finalement. Il a sa vraie typicité. Ce n'est pas du Chablis. Ce n'est pas un vin de la Côte de Beaune. C'est autre chose. Je trouve ça remarquable, c'est le domaine de la cadette.
Et c'est très bon, vous nous en avez apporté un petit peu. Voilà, on le déguste avec modération évidemment, mais c'est très bon.
Voilà, je voulais le faire goûter à Clovis.
Et c'est très très bon. Mmh. Franchement, c'est très bon. En plus, j'aime beaucoup moi quand c'est minéral comme ça, on sent.
Voilà, exactement.
Vraiment la pierre, j'adore ça. C'est très bon.
On enchaîne un Gamay très original. On retourne dans la Loire. Henri Marionnet a créé cette cuvée qui s'appelle Renaissance. Là, on est autour de 10 euros. C'est un vin issu d'une vigne qui est franche de pied, c'est-à-dire sans porte-greffe, tel qu'était le vignoble avant la crise du phylloxéra, et vinifié sans soufre, donc tel qu'on les vinifiait avant la découverte.
Et donc ça
ne
fait pas mal à la tête.
Ça ne fait pas mal à la tête. Et puis surtout, ça peut donner une petite idée de ce qu'étaient les vins d'il y a 2 ou 3 siècles.
C'est un vin avant, qui fait voyager.
Voilà, exactement, rapidement. Et puis pour terminer, un petit vin liquoreux. Il est issu d'un cépage rarissime qui s'appelle Londinque. C'est le domaine Plageol à Gaillac qui fait ça. C'est un vin liquoreux vraiment extraordinaire. Et ce domaine, sa particularité, c'est qu'il remet au goût du jour des cépages qu'on a souvent oubliés. Donc voilà, le domaine Plageol et Londinque.
Merci Olivier Poult, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants et donc des bons buveurs de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Et
moi j'ai déjà bu trop vite ce vin.
Deux gorgées, ça y est.
Deux gorgées, je suis déjà parti. Merci Olivier. Europe 1. À l'approche du vote qui déterminera ce soir qui va finir champion d'automne, l'émotion est immense dans le studio Merlin, alors que vous entendez Pouls et Cornillac trinquer. En termes d'intensité, on est presque au niveau d'un orgasme. La dernière fois qu'on avait été si excité dans une émission comme celle-ci, c'est quand Shuriken du groupe IAM avait dit
« Ah oui !»
87% de nos auditrices avaient ovulé instantanément.
Ah ouais.
Ah oui.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Clovis Cornillac a certes fait un joli brin de carrière, mais il me le disait hors antenne, participer à l'équipe sauvage, me rencontrer en vrai...
C'était le fantasme absolu.
Eh bien, je suis heureux d'avoir pu assouvir ce fantasme pour vous, mon cher Clovis. C'est le moment qu'on attend tous, le moment où la France arrête de respirer. Des derniers de cordée, au tout premier...
Une journée où l'histoire bascule. Une de ces dates où le destin de la France, de l'Europe... Ouais. Et du monde se sont joués.
Mais oui, deux questions se posent ce soir. Qui sera élu chroniqueur du jour? Mais ça, à la limite, on s'en fout, car la vraie question est qui sera sacré champion d'automne? Ève Roger et Alain Sirou ont tous les deux 55 points. Ils peuvent donc coiffer sur le fil Anne Le Gall, actuellement en pole position, et chauffeuse de salle aujourd'hui. On peut applaudir
Anne,
qui est vraiment polyvalente, puisqu'elle est à la fois journaliste et chauffeuse de salle. C'est le budget européen aussi. Les amis, c'est l'heure du quitte ou double. Mathieu Charrier, pourquoi Clovis Cornillac devrait-il voter pour vous?
Parce que nous appartenons tous les deux au grand monde du cinéma. Il faut défendre notre matière, être solidaire. Clovis sait que je suis dans une situation un petit peu compliquée dans ce classement. Voilà, je pense que moi j'ai toujours voté pour lui au César.
Oui, bien sûr. Ève Roger, pourquoi voter pour vous?
Eh bien parce que moi j'avais prévu un cadeau pourri pour vous qui s'appelle... La prostate, on en parle. Mais comme j'ai vu que vous étiez très gentil, je ne vais pas vous l'offrir. Et je vais l'offrir à Mathieu Charrier.
Ah, c'est encore mieux, c'est plus fort. Alain Sirou, pourquoi voter pour vous?
Parce que pour moi, la magie de Noël, c'est de voir au-delà des apparences. Et quand une étoile nous le permet, je sais que ça peut vous toucher.
Ève joue du pipeau à côté de vous. Nicolas Carreau, et vous, mon petit?
Eh bien, parce que j'essaye modestement de défendre la littérature. Et je sais que c'est aussi peut-être le combat de Clovis. S'il peut m'aider, ça m'aide.
Lui, il joue toujours la carte de la pitié.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment la culture et la démocratie.
Ne
vous
laissez pas avoir, des fois, ça marche.
Eh bien, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors, les auditeurs, sur Twitter, ont voté mais à une écrasante majorité pour le pire cadeau de Noël, Ève Roger, points en plus.
Ève Roger se rapproche de la première place du championnat. Pour qui a voté notre public présent
là,
aujourd'hui dans le studio Merlin?
Alors là, roulement de tambour, Mathieu Noël. Attention, oui. Mathieu Charrier.
Mathieu Charrier qui a certainement soudoyé les gens présents dans le studio aujourd'hui.
Non, je précise qu'il y a beaucoup de collégiens.
Il y a beaucoup de jeunes filles.
Voilà, il y a beaucoup de collégiens qui sont...
Et vous pensez que c'est le charme de Mathieu Charrier qui a agi?
Non, c'est Star Wars.
Ah, c'est Star Wars.
Je vous en prie, vous auriez pu répondre oui quand même.
Je comprenais pas. Non, pour vous, ça aurait été embarrassant.
En ce qui se concerne, je donne mon point aujourd'hui à Alain Siroux.
Ouais,
parce que j'adore Alain Siroux. Ouais, c'est effectivement mon argument numéro un. Et donc, ici, vous le savez, ce n'est ni moi, ni vous qui décidez, mais c'est l'invité qui tranche. Il a 3 points, Clovis Cornillac. C'est vous qui allez écrire l'histoire. Et, car souvent, le champion d'automne est le champion tout court en fin de saison. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Comme je vois que j'aimais bien aussi les maths, et qu'il y a Séro qui aime bien les maths, ce qu'on va faire, c'est que ces 3 points, vous allez les diviser en 4. Bonne chance.
Oh non, ça nous fait faire un calcul terrible. Mon bac S est si loin. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en régie pour nous dire qui a remporté cette édition?
Bah, c'est Mathieu et Ève, ils seraient ex aequo. Mathieu 0, et Ève seraient
ex aequo.
Et nous avons un cas d'égalité. Est-ce qu'on peut accepter une égalité? Non, il faut absolument départager.
Eh ben, je crois qu'il n'y a que vous qui pouvez faire.
Non, moi je ne peux pas. Moi, je suis
vous allez être dans la merde, vous.
Ah oui, il a raison, Clovis. Il a raison,
c'est moi qui dois départager.
Ouais.
Oh, je kiffe finalement. C'est Ève Roger qui remporte la 84e journée de l'équipe est sauvage parce que j'en ai décidé ainsi.
Merci,
et que c'est mon émission que je dirige comme un dictateur.
Mais est-ce qu'elle gagne le championnat d'automne ou pas?
Non, c'est les 0,75.
Pas suffisamment de points pour être championne d'automne. Championne d'automne, Anne Le Gall, votre chauffeuse de salle aujourd'hui.
Avec un petit cadeau.
J'ai envie de vous dire bisous, Anne Le Gall.
Avec plein de cadeaux.
Oh, plein
et
de cadeaux
Maria
vraiment pourris, visiblement.
Non, c'est pas des cadeaux pourris.
Si, c'est des cadeaux pourris.
Non.
Mais ça, c'est les cadeaux qui traînaient dans l'espace où on laisse les livres.
Mais c'est
offerts.
Pas vrai, je les ai gardés exprès.
C'est vrai. Ah, vous les avez gardés exprès.
300 expressions bien français pour épater la galerie, 150 choses à savoir, 100 fiches d'actualité pour les nuls.
Merci. Alors, ça, dis donc, tu vas t'amuser.
Et Maria Carré.
De quoi on pourrait pas rajouter la prostate?
Oui, ça peut toujours servir. C'est vrai, ça peut toujours servir. Merci en tout cas, Clovis Cornillac, d'avoir été un formidable invité aujourd'hui. Les Vétos sort le 1er janvier. Merci à mes journalistes également, Eva Roque, Ève Roger, Nicolas Carreau, Alain Siroux et même Mathieu Charrier, puisque c'est Noël. L'équipe est sauvage, revient demain 16h en best-of. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changé avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à votre équipe est sauvage. On a aimé conclure cette semaine avec Clovis Cornillac et vous tous. C'est la qui pour vous aussi. On vous retrouve dès demain quand même pour les meilleurs moments. Très belle fête à vous, Mathieu.